Selon le scénario frugal, c'est-à-dire le scénario le plus contraignant établi par l'ADEME qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, nos mobilités d'ici 2050 doivent évoluer vers moins de kilomètres parcourus, moins de vitesse et plus d'électrification des véhicules. C'est de 26% que les kilomètres parcourus doivent baisser. Les modes dits actifs, c'est-à-dire la marche ou le vélo, seront à privilégier au détriment de la voiture et de l'avion. Les mobilités devront donc favoriser la proximité. Les voitures devront s'électrifier progressivement pour couvrir à terme 90% des usages. Elles devront être plus légères, leur vitesse de circulation revue à la baisse, par exemple, on en parle souvent, 110 km au lieu de 130 à l'heure sur l'autoroute. Bref, tout cela, donc, au plus tard pour 2050. Alors, comment appréhender ces bouleversements dans nos vies, selon que l'on vit en ville, en périphérie des centres urbains ou en milieu rural ? Comment assurer la liberté de mouvement de tous, quel que soit le genre ou l'âge, ou l'éloignement des services et des centres d'activité ? La prise de conscience du personnel politique et l'accompagnement technique sont-ils les mêmes selon les territoires ? Quel dialogue entre recherche et politique ? Quelle mobilité et donc aussi quel mode de vie demain ? Et puis comment s'inscrire dès aujourd'hui dans de nouvelles cultures et pratiques de la mobilité ? Pour répondre à ces questions, nous recevons Nathalie Hortard, socio-anthropologue. Nathalie Hortard est directrice de recherche du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, et également directrice de recherche au laboratoire Aménagement Économie des Transports à l'ENTPE, École de l'Aménagement Durable des Territoires. Nathalie Hortard, merci de vous être rendue disponible pour venir de Lyon nous rejoindre ce soir, et c'est à signaler, vous êtes venue en train, et vous êtes venue à pied de la gare de Château-Creux jusqu'à l'École des Mines. Les nouvelles mobilités sont donc tout à fait à votre programme. Alors, pour commencer cet entretien, tout d'abord, pouvez-vous, en quelques mots, préciser ce que la socio-anthropologie, ce que c'est, et puis nous dire comment une thématique telle que celle que nous allons discuter ce soir s'inscrit dans cette discipline.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. C'est toujours un plaisir d'échanger autour de ces thématiques. Alors, la socio-anthropologie, ce n'est pas une discipline, ce sont deux disciplines, la sociologie et l'anthropologie. La sociologie, c'est l'étude de la société, des normes, notamment, qui régulent la société. Et donc, ce sont toutes les façons qui font que nous arrivons à vivre ensemble au sein de la société. L'anthropologie, la particularité, c'est de s'intéresser au plan culturel de nos modes de vie, de nos façons d'être, de nos façons de comprendre et d'appréhender le monde. Donc c'est un petit peu un pas de côté par rapport à la sociologie, en tout cas dans la façon dont moi j'appréhende les deux.
Et lorsque vous avez une thématique comme celle de la mobilité, des mobilités, quel regard est-ce que vous apportez ? Ce sont ces deux disciplines qui viennent éclairer cette problématique ?
La sociologie, on va plus travailler sur justement la problématique des modes de vie au quotidien. Comment est-ce qu'on fait pour se déplacer ? Pourquoi est-ce qu'on se déplace ? Quels enjeux économiques il y a derrière cela ? L'anthropologie, ce qu'on va regarder, c'est qu'est-ce que le déplacement va nous procurer. Donc on est plus sur ce qu'on appelle l'anthropologie du sensible, c'est-à-dire l'anthropologie des perceptions, et comprendre comment est-ce que ces perceptions se construisent. Par exemple, un exemple sur lequel je travaille en ce moment, c'est celui du vélo. Quand on se déplace à vélo, les sens entrent énormément en action. Il y a à la fois nos pratiques corporelles, c'est-à-dire la façon dont on va se déplacer, qu'est-ce que ça va procurer, quel type d'effort on va mettre en œuvre, mais aussi quel sens en fait on met en œuvre également là-dedans. Et dans toute cette partie sensorielle, il y a une partie certes cognitive, mais il y a aussi une partie culturelle, dans la mesure où tous nos sens sont aussi acquis au cours de différents types d'apprentissage.
Est-ce que vous croisez vos recherches et du coup aussi vos réflexions, vos analyses, vos travaux avec d'autres disciplines, y compris dans le champ des sciences dures. On sait que les sciences dures aujourd'hui sont en demande de liens avec les sciences humaines et sociales. Est-ce que dans l'autre sens, ça fonctionne aussi ?
Alors, toute la difficulté, en général, c'est la question de la traduction. Quand deux disciplines se rencontrent, il faut commencer par commencer à se parler pour comprendre de quoi on parle chacun. Et ça, c'est vraiment une vraie difficulté. Et dans les programmes de recherche, on a rarement le temps, en fait, de le faire. Et ce qui fait qu'effectivement, il y a des demandes, notamment des demandes institutionnelles pour des financements de recherche, pour que ces rencontres aient lieu. Mais très souvent, c'est un échec pour différentes raisons. La première étant qu'il n'y a pas eu ce temps de préparation et que très souvent, les sciences sociales arrivent sur des programmes qui sont déjà ficelé en quelque sorte. Là, on va rentrer un petit peu dans la technique de la recherche, mais les sciences de l'ingénierie ont en général des très gros budgets et les sciences sociales ont des petits budgets. Et donc, le problème, c'est que quand on discute avec quelqu'un qui vient des sciences de l'ingénierie en disant bah, « Tiens, ça serait chouette, on pourrait travailler ensemble », là, il commence à vous annoncer son budget et vous lui dites bah, « en fait, ça ne va pas être possible ». Parce que ça ne va pas passer, on ne va jamais avoir le financement. Voilà, donc il y a tout un ensemble de raisons qui font que pour l'instant, les rencontres sont compliquées.
D'accord. Alors la voiture, elle fait véritablement partie de nos vies. Et les villes semblent mieux dotées pour proposer des alternatives à son usage. Néanmoins, selon que l'on habite le centre ou la périphérie, les conditions pour effectuer des trajets au quotidien ne sont pas les mêmes. Quelles sont ces difficultés spécifiques et comment les abordez-vous ?
Alors, les difficultés spécifiques vont être liées au type de service que les territoires vont offrir et donc, du coup, à l'ampleur de l'offre qui va être disponible pour chacun. Donc, on est une société qui, à partir des années 50, en particulier en France, a construit son réseau de transport autour de la voiture. C'est-à-dire qu'on a progressivement écarté l'ensemble des autres modes pour laisser une place dominante à la voiture et au camion aussi, mais essentiellement à la voiture. Cela s'est fait au détriment de l'ensemble des autres offres et notamment de l'offre de transport en commun qui a été extrêmement réduite. Il faut quand même imaginer que dans les années 30, on avait du train absolument partout. On a construit un réseau en l'espace de 50 ans. On a construit un réseau absolument incroyable. Et quasiment le jour où ce réseau a été fini, on a commencé à le réduire. Et on l'a réduit pour mettre un autre mode qui était la voiture. Parce que la voiture, on a estimé que c'était plus simple, parce qu'on est un pays aussi en France qui a une industrie de voitures. On a une longue histoire de cette industrie-là. Et donc, il y a eu des choix politiques qui ont été faits pour laisser la place à cette voiture. Ce qui fait qu'actuellement, effectivement, progressivement, on a eu une disparition de l'ensemble des autres offres qui n'étaient pas forcément des offres pour se déplacer, mais qui pouvaient être aussi des offres de services qui se déplaçaient à vous. Je pense par exemple aux épiceries ambulantes que l'on avait un petit peu partout. Donc c'est un ensemble de choses qui ont disparu pour qu'on puisse se rendre vers les lieux dans lesquels on a concentré soit l'emploi, soit les services, soit les commerces. Alors comment est-ce qu'on va l'aborder ? On va l'aborder justement par type de territoire, puisque chacun des territoires va avoir des problématiques spécifiques qui peuvent être soit, comme je l'indiquais, spatiales, mais qui peuvent être aussi des problématiques socio-économiques.
Alors, on va en parler, mais là, vous disiez que le réseau ferré avait été très important, avait irrigué tout le territoire. On imagine qu'avec l'avènement de la voiture, il s'est passé la même chose avec les routes, voire plus tard peut-être autoroutes, qui ont été développées certainement à la hauteur de l'augmentation des véhicules personnels. Ça s'est passé rapidement, ça aussi ?
Ça s'est passé relativement... Enfin, quand on regarde l'histoire de la France, oui, ça s'est passé relativement très vite. Hein. On a subi plusieurs révolutions quasiment de façon consécutive. qui ont complètement transformé nos façons d'être et qui s'est accompagné, ce que l'on voit moins, d'un, et c'est là où on rejoint les sciences de l'ingénierie, qui s'est accompagné d'une révolution aussi des systèmes sociotechniques. Puisque pour pouvoir avoir des voitures partout, il a fallu pouvoir amener du pétrole de partout, il a fallu pouvoir amener des services de partout, et donc des systèmes sociotechniques qui se sont développés à la hauteur de cette évolution-là. Donc oui, les routes se sont développées à peu près à la même vitesse. Le réseau routier soit a pris justement sur les chemins ferrés, notamment dans tout le monde rural. Il y a eu un réemploi, si on peut dire, de ces voies-là, en particulier dans tous les espaces contraints. Et puis, on a développé effectivement d'autres routes. On a retravaillé ensuite les mêmes routes pour les rendre plus performantes, plus rapides, pour pouvoir aller toujours gagner en vitesse.
Alors, on voit cette évolution, donc d'où elle vient, comment elle se met en place, comment elle est liée aussi, vous le disiez tout à l'heure, à l'industrie de l'automobile en France. Si on se place aujourd'hui, alors que tous les signaux sont un peu au rouge pour nous dire de lever le pied, c'est le moins qu'on puisse dire. Quels sont les enjeux majeurs et qu'est-ce qui distingue encore les pratiques de chacun? Je pense par exemple à la difficulté pour des personnes qui sont extérieures au centre-ville, la difficulté que peut représenter le fait d'entendre qu'il faut se passer de la voiture. On sait que les transports en commun desservent moins des banlieues proches. On sait que certaines personnes sont parties à un moment pour la maison individuelle ou pour plein d'autres raisons à une quinzaine, vingtaine, trentaine de kilomètres de la ville-centre, qui reste la ville où ils travaillent. Vous notez ces évolutions, ces difficultés majeures. Qu'est-ce que vous remarquez en fait ?
Alors, sur les transformations qui se sont demandées, effectivement, le premier enjeu, qui est rarement mentionné de façon frontale, même si ça commence à émerger, c'est celui de ce qu'on appelle la justice mobilitaire, c'est-à-dire le droit de pouvoir se déplacer comme on en aura besoin. Alors, jusqu'où sont les besoins, c'est quelque chose qui reste à définir. Pour tous et pour toutes. Et effectivement, cette question est d'autant plus cruciale que vous mentionnez les quartiers qui sont les banlieues qui sont moins bien desservies, qui peuvent être des banlieues de proximité où très souvent on retrouve aussi une population qui a des ressources financières moindres. Et qui donc va éprouver plus de difficultés, effectivement, à changer son mode de déplacement. Ceci étant dit, son mode de déplacement actuellement est aussi de toute façon menacé. Et c'est quelque chose qu'il faut aussi avoir en tête. La voiture pour tous, c'est quelque chose qui est aussi menacé en raison de son coût. Même la voiture thermique, et je ne parle pas encore de la voiture électrique. On observe d'ores et déjà de très grandes disparités entre les gens qui peuvent se déplacer en voiture et ceux qui n'ont plus les moyens de se déplacer en voiture. Donc la question de l'équité des mesures à venir est d'arriver à ce que la transition mobilitaire puisse être une transition juste pour l'ensemble de la population est une vraie question. Et d'autant plus crucial qu'effectivement, on a vécu jusqu'à présent sur une courbe économique croissante, qu'on reste dans l'espoir, en tout cas pour certains, que cette courbe économique croissante va continuer à croître, mais que rien n'est moins sûr, et que donc la question aussi d'un accès à tout le monde est une vraie question, ce qui implique de réfléchir à l'offre de transport en commun, de s'assurer que effectivement les modes actifs soient bien appropriables par tous, ce qui n'est pas nécessairement le cas, et puis que lorsque ce n'est pas possible, qu'il y ait des solutions alternatives qui soient proposées, qui ne passeront pas nécessairement par de la voiture individuelle, qui peuvent être de la voiture partagée, qui peuvent être du covoiturage, qui peuvent être d'autres solutions, mais qui sont réellement à penser et pas simplement à considérer comme étant des pansements pour des situations compliquées.
Est-ce qu'elles sont pensées, justement, et à quel niveau est-ce qu'elles sont pensées? On a parlé, alors évidemment, des fractures économiques, des fractures socioculturelles, de la fracture numérique. Et là, on a l'impression qu'on va arriver à une sorte de fracture de la mobilité, c'est-à-dire que, pour dire les choses peut-être un peu brutalement, on a les hypercentres des très grandes villes économiquement riches qui sont souvent habitées par des personnes cadres, qui ont des revenus tout à fait corrects et qui, eux, pratiquent les mobilités douces parce que souvent leur lieu de travail est proche de leur lieu de vie. Et puis les populations un peu plus éloignées, moins dotées économiquement, qui, elles, vont par exemple faire des ménages avant que les entreprises ouvrent et après leur fermeture, qui n'ont plus forcément de transport en commun pour les emmener, qui peuvent être culpabilisées de leur pratique.
Ce que vous impliquez dans votre question, en fait, il y a deux choses que j'entends. Il y a la question de pouvoir se déplacer sur son lieu de travail, et c'est pas parce qu'on habite en hypercentre qu'on travaille nécessairement à côté. Pouvoir y aller avec un mode actif quand on a finalement un emploi sédentaire qui vous permet d'avoir une dépense physique. Et d'autre part, il y a la question effectivement des emplois ayant une forte pénibilité, où effectivement, enfourcher son vélo quand vous avez été 8 heures en usine, c'est pas forcément la chose la plus enviable au monde. Donc cette question, c'est aussi la question des modes actifs, effectivement, repose la question d'une équité différente face à la disparité, on va dire, des façons de travailler et de l'énergie qu'elles vous demandent. Donc effectivement, il y a cette question. Cette question qui est redoublée, mais qui est déjà un problème actuellement, qui est redoublée par le fait qu'en général, les emplois les plus pénibles physiquement sont aussi ce qu'on appelle des emplois postés, c'est-à-dire des emplois où vous n'avez pas le choix de vos horaires. Et ça, c'est la vraie différence par rapport à d'autres types d'emplois. Donc des emplois où vous embauchez ou vous débauchez à des horaires où, en général, effectivement, il y a peu ou pas de solutions. Cette question, en fait, elle commence réellement à titiller les employeurs parce qu'ils commencent à ne plus arriver à embaucher ou à conserver leur personnel. Donc, on est en train d'avoir des employeurs qui commencent par se tourner vers l'État. En France, on aime bien se tourner vers l'État. C'est un petit peu... l'État est un petit peu notre... À la fois, on le décrit beaucoup, puis en même temps, c'est quand même... C'est un peu notre doudou, notre... Bref, on a une relation très paradoxale à l'État. Et... parenthèse fermée. Et donc, ils commencent par se tourner vers les services de l'État en leur disant « Mais que faire ?» Services de l'État qui leur disent « Mais c'est peut-être à vous aussi de vous organiser pendant longtemps. Les employeurs ont assuré l'acheminement de leurs employés. Donc c'est peut-être une compétence qu'il faudrait simplement que vous réfléchiez à reprendre, soit en organisant du transport en commun vers vos lieux d'entreprise, soit en réfléchissant à du covoiturage, mais en y réfléchissant vraiment, c'est-à-dire en réfléchissant à qui peut covoiturer avec qui et donc comment est-ce qu'on va organiser les chaînes de travail de façon à ce que les gens qui sont sur la même chaîne de covoiturage puissent être travaillés aux mêmes heures, aux mêmes horaires. Donc ça suppose de pas simplement se dire qu'on va continuer à fonctionner comme on a fonctionné, mais de se reposer de façon globale, chacun à son échelle, cette question des transports. Et ça passe aussi par les entreprises, qui sont en général le grand oublié. Parce qu'on parle beaucoup du citoyen, en général, pour le culpabiliser, en lui disant « Oh, il se déplace mal, c'est pas bien ». Je caricature un peu, mais on est quand même là-dedans. L'État, c'est la ressource derrière vers laquelle on se tourne en dernière instance. Et puis on oublie qu'au milieu, il y a quand même les entreprises. C'est parce que les entreprises sont aussi localisées aux endroits où elles sont que nombre de gens ont besoin d'avoir une voiture. C'est parce que les entreprises n'assurent plus le transport de leurs employés aussi que leurs employés ont besoin d'avoir une voiture. Donc ces questions-là sont à réfléchir par pôle d'emploi et pas simplement nécessairement à l'échelle d'une entreprise, car effectivement une entreprise ne peut pas nécessairement faire face suivant sa taille. En tout cas, elles sont dans des zones, en général des zones d'emploi, où elles pourraient s'organiser pour remettre cette question et pouvoir s'en emparer.
Une autre question que posent les mobilités hors usage de la voiture. La voiture, c'est un habitacle. On a l'impression d'être relativement protégé. une carcasse autour de nous. Le vélo peut fragiliser, parce que les voitures peuvent le frôler. J'en parlais avec des collègues cet après-midi. Certaines personnes disent non, ça, les voitures passent trop près. Moi, j'ai peur. Je veux bien faire du vélo, mais simplement sur des pistes cyclables, mais exclusivement cyclables et très larges, mais pas dans les villes. Se pose aussi la question du genre. Est-ce que les politiques ont aussi le souci de penser la ville, la nuit, pour tous et toutes, avec les mobilités douces, bien sûr.
De plus en plus, c'est quand même une vraie question qui émerge de façon de plus en plus prégnante. La question du genre de la ville est quelque chose qui a émergé. Alors, les premiers travaux datent des années 80, mais avant que le public s'en empare et que l'on commence à considérer ça comme une véritable question. C'est-à-dire qu'on est, en France en tout cas, c'est vraiment... La toute dernière dizaine d'années où cette question a commencé à être vraiment posée sur la table et où progressivement les politiques ont aussi souhaité commencer à s'en emparer. Alors pas partout, hein. C'était toujours pareil, ça dépend de leur volonté, de leur ouverture aussi, de leur capacité à entendre qu'il puisse y avoir un problème lié aussi à ça dans les villes dont ils sont élus. Mais la question commence à être vraiment sur le devant de la scène suite aux premières enquêtes aussi. Pendant très longtemps, l'ensemble des enquêtes transport était sans genre. On comptait le nombre de cyclistes. On ne regardait pas s'il y avait des filles et des garçons. On regardait simplement s'il y avait des cyclistes. Et puis un jour, quelqu'un a dit « mais ça serait quand même bien de savoir précisément de façon un peu plus fine » quel est le genre des cyclistes, quel est le genre des personnes aussi qui ont un permis de conduire, quelle est la proportion d'hommes et de femmes dedans, quels sont les usages du coup genrés des différents véhicules et pourquoi est-ce qu'il y a des usages genrés s'il y a des différences. Il y a des différences qui sont liées aux activités différentes des hommes et des femmes. On est dans une société qui reste très patriarcale quand même. Donc les femmes assurent plus que les hommes toutes les tâches d'accompagnement des enfants, toutes les tâches ménagères, toutes les tâches aussi ayant lien à l'approvisionnement domestique. Ce qui fait qu'elles ont un usage plus important en général au quotidien de la voiture avec des déplacements qui sont plus complexes que les hommes. Donc du coup, réfléchir à la ville en fonction du genre, c'est aussi se poser la question de qu'est-ce que chacun fait dans la ville et du coup, quel type de service on pourrait aborder. Par exemple, pendant très longtemps, les femmes utilisaient aussi plus les bus puisque ce sont les hommes qui ont en général, malgré le fait qu'elles font plus d'accompagnement, ce sont les hommes qui ont plus l'usage de la voiture quand il n'y a qu'une voiture dans le couple que leur conjointe. Et on s'est rendu compte, par exemple, que les bus où il y avait des marches, en fait, étaient une vraie contrainte parce qu'elles sont chargées, d'enfants, sont chargées par leurs courses et que ça rajoutait en fait un effort dans l'effort. Donc la réflexion en fait qui a été menée en même temps pour rendre la ville plus accessible aussi pour les handicapés a été une façon de répondre aussi à un ensemble de besoins genrés en fait de cet usage de la ville.
Pour l'usage du vélo la nuit, rentrer tard, on est jeune, on est fille.
Ben, les filles trouvent que voilà. C'est plus sécurisé que marcher à pied.
D'accord. Vous avez des témoignages là-dessus ?
Ah oui, complètement. Oui. Y compris à
Saint-Étienne. Mais alors, que marcher à pied, on comprend ? Que les transports en commun aussi ?
Que les transports en commun aussi. Oui, tout à fait. Les jeunes femmes trouvent le vélo plus sécurisant parce qu'elles ont le sentiment qu'elles pourront partir plus vite. Même si elles sont interpellées verbalement, l'agression physique va être plus compliquée. Et donc, les jeunes femmes trouvent que le vélo est plus sécuritaire que la marche à pied ou les transports en commun à partir d'une certaine heure. Alors, les transports en commun, tout va dépendre aussi des lieux. Il y a des endroits où les transports en commun ne sont pas du tout marqués comme pouvant être problématiques. Et il y a des quartiers, pour le coup, où c'est une vraie problématique. Juste un exemple très, très flagrant qui m'avait vraiment frappé la première année où... Je travaillais donc à Vaulx-en-Velin à l'ENTPE. Je dormais le soir à l'ENTPE. Et souvent, j'allais d'abord dans Lyon avant de retourner dormir à l'ENTPE. Et je prenais à l'époque, donc il fallait changer de transport à Laurent Bonnevé. Et donc, je prenais le métro jusqu'à Laurent Bonnevé. Le métro était mixte. Je montais dans le bus. Très souvent, j'étais la seule femme du bus. Il ne m'est jamais rien arrivé. Donc, je ne peux pas dire que ce soit une situation qui était dangereuse pour moi. Je ne me suis jamais sentie en insécurité. Mais il n'empêche qu'il y avait manifestement cette appréhension de prendre un bus la nuit, enfin le soir en tout cas, dans Vaux-en-Velin. Donc le problème, c'est qu'il y a la perception et puis il y a le danger réel et qu'il est souvent difficile de faire coïncider les deux. Mais après, les perceptions ne s'appuient pas non plus sur rien.
Alors dans la perspective toujours de un usage totalement différent de la voiture, de la circulation en ville, il y a d'autres populations aussi qui peuvent peut-être se sentir un peu exclues d'une vie un peu libre en termes de circulation, de choix de ces moments de circulation. Ce sont les personnes âgées. Qu'est-ce qui est pensé par rapport à ça ? Parce que j'ai regardé sur Internet, vous m'aviez parlé de services qui pouvaient être mobilisés pour des personnes âgées en disant bah voilà, telle heure je sors de tel endroit. J'ai eu l'impression que ça n'allait pas au-delà de 17h, 18h, mais j'imagine qu'on peut aussi être âgé et avoir envie de terminer une soirée beaucoup plus tard si l'énergie est là. Et à ce moment-là, est-ce que ce sont des choses qui sont pensées ? C'est-à-dire que est-ce qu'on pense avec ces enjeux à venir, toute la diversité des populations, leurs conditions économiques, leurs conditions culturelles, leurs conditions géographiques, on vient de parler du genre, l'âge, le handicap. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à ne pas penser la masse qui est bien portante, qui a entre 30 et 60 ans ?
Il y a des réflexions. Alors la question des modes actifs, c'est aussi une façon de maintenir une population en bonne santé et de retarder aussi les effets du vieillissement. Alors, il y a plusieurs réponses à ce que vous dites. Il y a la question de offrir une diversité d'objets. Je pense aux vélos à trois roues, je pense aux vélos électriques, qui sont manifestement des objets dont les personnes âgées s'emparent, ce qui n'est pas nécessairement sans poser question. Je pense au vélo électrique et une réflexion justement qu'on avait avec un collègue en train de réfléchir à un nouveau projet sur le vélo et il me donnait l'exemple de sa mère qui a acheté un vélo électrique. Et il est lui-même psychologue et il travaille sur la motricité et il me disait le vélo électrique, je trouve ça à la fois super et en même temps problématique parce qu'on donne un objet qui va plus vite, enfin en tout cas qui a des réactions plus rapides à des personnes qui ont moins de réflexes. Donc lui, ça l'interrogeait par rapport à ça, et donc on va travailler là-dessus. Mais en attendant, il y a ces types d'objets qui se développent et qui permettent, en tout cas le vélo à trois roues, c'est nettement une réponse. Après, il faut que les personnes osent s'en emparer, ce qui est autre chose.
Et que les villes soient adaptées aussi à ces circulations.
Alors, et que les villes soient adaptées à ces circulations, mais en tout cas, c'est une des réponses pour les modes actifs. Pour les transports en commun, en fait, la réflexion, elle est plus sur comment intégrer le handicap. Et à partir du moment où on intègre le handicap, on intègre aussi la question du vieillissement. Après, il y a une autre question face au mode actif, c'est qu'on se retrouve dans des endroits où, effectivement, on va avoir des différentiels de vitesse. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui marchent, pas forcément de façon très aisée, des trottinettes, un ensemble en fait d'objets qui vont devoir se côtoyer avec le sentiment en général pour les personnes qui sont sur les objets et plus vite qu'ils ont tout à fait appréhendé le danger que représentait la personne et qu'ils vont l'éviter suffisamment et une perception pour la part des personnes âgées qu'elles n'ont pas été suffisamment prises en considération. Donc c'est pas parce qu'il n'y a pas collision que les personnes ne se sentent pas en danger. Je pense que là, on est aussi sur une population qui avait perdu l'habitude d'être dans ce type d'environnement. Je pense qu'ils ont grandi dans ce type d'environnement et qu'ils ont complètement perdu l'habitude et qu'il y a aussi à se réapproprier le fait que c'est pas parce qu'il y a des objets mouvants autour de soi qu'on est nécessairement en danger et à apprendre à composer avec cela alors même, et je l'entends, hein, qu'on se sent soi-même en déprise et qu'on a du mal à appréhender ses réflexes. Ce qui est une vraie difficulté. Mais ça, c'est aussi la difficulté d'un monde où on va avoir une population vieillissante de plus en plus importante. Et pour l'instant, cet aspect-là n'est pas pris du tout en compte par les politiques, c'est sûr. Et personne ne sait en fait comment on va l'appréhender. de façon très contrainte. Sur les transports en commun, j'en finis après sur cette question, c'est la même chose que le type de service que développent certaines villes avec des arrêts à la demande à partir d'une certaine heure. Enfin, ça permet de pouvoir se déplacer le soir, aussi de façon sécurisée. L'agression, c'est aussi une crainte des personnes âgées, et donc de se sentir pris en considération par rapport à ça, et du coup d'oser sortir.
Ces nouvelles mobilités, elles engendrent aussi un stress particulier, c'est-à-dire que oui, il faut partager l'espace. Tous les deux roues, finalement, ont une vision un petit peu rapide, parfois un usage un peu anarchique de la voirie, et donc il y a un risque d'accident accru parce que ça vient quand même un petit peu de toutes parts. On a l'impression que les règles du jeu ne sont pas forcément complètement adaptées et tolérées par tous. Et on voit par exemple à Saint-Étienne, vous avez emprunté le cours Fauriel pour arriver jusqu'ici. C'est un lieu qui est très très occupé par la voiture. Il y a 6 voies de circulation. Les deux seuls endroits piétons ont été scindés en deux avec donc cette bande blanche qui indique ceux qui sont à deux roues et ceux qui sont à pied.
On en revient un peu au début de l'entretien lorsqu'on a parlé de la voiture qui est devenue omniprésente. Là, actuellement, le problème de la voiture, c'est qu'il va falloir qu'elle fasse la place à d'autres modes. Et là, je pense que le cours Fauriel, typiquement, c'est un non-choix politique. On a pris la place à ceux qui vont le moins manifester leur mécontentement. Au lieu de limiter la place de la voiture et de se dire, ben là, on commence à avoir une véritable politique vélo, c'est-à-dire qu'on va prendre de la place sur la voiture et qu'on va... Il y a 6 voies, effectivement, c'est monstrueux. On va peut-être juste en enlever une pour pouvoir avoir des vraies circulations cyclistes possibles, qui seront du coup sécurisées pour les vélos et pour les piétons. Le problème du partage que vous évoquiez, en fait, il est double. Alors, il y a effectivement des gens qui vont vite avec des deux roues. Et puis, il y a des piétons qui ne se rendent pas compte qu'ils sont sur des voies cyclables. Et ça aussi, c'est problématique. Donc, en fait, il y a un vrai apprentissage. Quand je vous parlais tout à l'heure de l'apprentissage, il est à faire pour tout le monde de réaliser que quand il y a une piste cyclable, on ne se promène pas dessus. Et donc, effectivement, ça évitera qu'on sursaute quand il y a un vélo qui passe, voire il y a certains cyclistes qui ne sont pas très polis, on se fasse insulter, ça arrive malheureusement. Et inversement, c'est aussi au vélo à admettre qu'on arrive effectivement à une masse critique et que du coup, on a besoin de rester sur les espaces qui sont dédiés. Et je trouve que c'est quelque chose qui se fait quand même plutôt bien à partir du moment où ces espaces sont offerts. Enfin, vu l'augmentation, à Lyon, on est sur une augmentation de 20% par an du nombre de cyclistes depuis plusieurs années, ce qui fait que là, on a, je ne sais pas quelle est, j'ai pas regardé la part modale, mais enfin, on commence à avoir, en tout cas dans le centre, une part modale qui est significative. Donc les gens sont quand même majoritairement, en très très grande majorité, sur les voies qui leur sont dédiées, qui commencent à être embouteillées d'ailleurs, qu'il va falloir élargir et donc prendre un peu plus de place sur la voiture. C'est là où les enjeux vont être prochainement. Ou alors à développer des voies partagées, c'est-à-dire ralentir la voiture de façon à ce que la vitesse de la voiture ne soit plus un danger pour les cyclistes. Ça, c'est aussi une véritable possibilité et qui permettrait du coup d'innerver en mangeant moins de place de la voiture et en permettant au cyclisme de se développer partout.
Alors là où le cyclisme est difficile, c'est en milieu rural. Les centres-villes sont assez réduits et puis très très vite on est dans la campagne avec là un usage de la route qui se fait aussi bien par les voitures que par les camions, que par les véhicules agricoles qui empruntent bien ces voiries. La problématique, vous m'avez dit, la voiture en milieu rural, c'est vraiment un problème complexe parce que ça ajoute aux difficultés d'usage finalement de la route elle-même, aussi peut-être une différence de traitement par le politique qui est peut-être moins aguerri, qui est peut-être moins sensibilisé à ces questions-là.
La question effectivement en milieu rural est complexe selon les territoires. Il y a des territoires où ça ne sera pas forcément une question si complexe que ça. Je m'explique, c'est qu'on a des territoires où il y a énormément de routes secondaires qui peuvent tout à fait être utilisé du coup pour des usages quasi exclusivement vélo, avec simplement les riverains qui continuent à avoir l'autorisation de circuler dessus en voiture. Là, les territoires où c'est compliqué, ce sont tous les territoires contraints, où effectivement il y a une route et qu'il est difficile d'avoir un cheminement alternatif. On a travaillé sur la Drôme et l'Ardèche, la Loire, il y a énormément de territoires qui sont similaires, où ça demande une véritable réflexion et un véritable enjeu aussi politique pour voir où est-ce qu'on pourrait dessiner d'autres façons de se déplacer. En sachant que, et c'est là c'est aussi quelque chose qui est important, c'est qu'il y a toute une partie de la population qui est malgré tout prête à changer de mode de transport. Quand on a réalisé les entretiens, il y a des gens qui soit déjà avaient commencé, soit avaient essayé, puis avaient abandonné parce que trop dangereux. Mais il y a un ensemble de la population qui est prête, grâce notamment, pour le coup, au vélo électrique, qui permet en fait d'appréhender la distance de façon différente par rapport à un vélo musculaire. Le problème du territoire rural, c'est qu'il y a effectivement déjà donc, cette question d'un espace qui peut être contraint. Le deuxième problème est souvent effectivement un problème politique. On est face à ce qu'on appelle le millefeuille territorial, où avec des compétences qui sont extrêmement entrelardées et qui demandent, pour pouvoir s'emparer de ces sujets, déjà de complètement maîtriser tout cet ensemble et ensuite de maîtriser les compétences techniques pour pouvoir développer ce type de politique. Donc il y a certaines communautés de communes qui ont commencé à appréhender cette question et qui ont commencé à monter en compétences, en général parce qu'elles avaient un technicien qui était lui-même motivé par ces questions, hein, dans tous les territoires et dans les villes d'ailleurs où ça a commencé à se développer. En général, ça part de volonté individuelle qui pousse à ce que ça se développe, qui monte en compétences et qui deviennent du coup des interlocuteurs sérieux face aux politiques. Donc il y a soit ça, soit une première prise en considération en se disant qu'il y a un besoin de changer, soit un déni. On est encore beaucoup dans le déni des problèmes, notamment au niveau des politiques, plus que finalement la population. Et ça, on a un vrai paradoxe actuellement autour de ça.
Un déni par peur d'essuyer un revers électoral ou d'avoir des difficultés de dialogue avec les populations ?
L'ensemble, un déni parce que on a encore cette croyance que la voiture électrique va tout sauver, ce qui est faux. La voiture électrique va rester chère, la voiture électrique va rester un objet extrêmement polluant qui utilise énormément de matières rares. Donc on ne va pas pouvoir tous avoir une voiture électrique, ce n'est pas possible. Donc il va falloir trouver des solutions alternatives. Donc il y a cette croyance que la voiture électrique va, à un moment donné, son prix va baisser et que ça va remplacer le thermique. Donc il y a ça qui est une façon un peu d'éviter de se poser la question. Et puis il y a effectivement la peur de la confrontation avec la population, de la même façon que ces peurs avaient pu exister dans les agglomérations lorsqu'elles ont par exemple commencé à faire les premières rues piétonnes. J'ai l'impression qu'on est vraiment au même stade de réflexion. La semaine dernière, j'étais invitée à Vélo et Territoire, qui avait son congrès, et il y avait un maire rural qui disait « Mais je ne peux pas empêcher les voitures de traverser la ville, vous ne vous rendez pas compte, ça va leur rajouter du temps. » Et bon, moi, je me suis dit « Ça va leur rajouter 2 minutes. » Enfin, c'est pas forcément un temps énorme, mais il y a tout de suite cette crainte, alors que pour le coup, cette personne était volontaire, elle était quand même présente à un congrès de Vélo et Territoire, ce qui quand même est la preuve qu'il y a un véritable intérêt. Mais en même temps, tout de suite, la réaction, c'était une réaction de défense en se disant « mais ça ne va jamais passer, les automobilistes ne vont pas être contents, déjà ils ont une vie compliquée, en plus on va leur compliquer encore plus ». Donc il y a ces craintes qui sont réelles ou pas, je ne sais pas. En tout cas, certainement pas réel sur l'ensemble des territoires, et avec une population, en tout cas, qui est beaucoup plus divisée, en tout cas, sur ces questions-là que ce qu'il semble croire.
Alors, vous êtes directrice de recherche du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Quand on lit cette fonction, on se dit, voilà, vous menez des recherches au bénéfice, au profit d'un ministère qui, donc, peut, derrière, nourrir, irriguer une politique qui peut inspirer, pas forcément qui sera décliné, mais qui peut inspirer des politiques de territoire. C'est un mythe, c'est une réalité, ça ?
Alors, le mythe, c'est que quelqu'un au ministère lira nos travaux. Ça, je pense que là-dessus, on est assez clair. On est dans une école du ministère de l'Industrie. Je pense que la question est exactement la même ici. Le personnel du ministère ne va pas, et le ministre encore moins que les autres, ou la ministre ne va s'emparer de nos recherches. Mais néanmoins l'intérêt, alors ça, c'est pas le fait d'être dans un ministère, mais c'est la façon dont on nous oblige dorénavant à dessiner nos programmes de recherche qui fait qu'on a de plus en plus d'interactions avec les politiques. Il y a des besoins de travailler avec les collectivités. Le projet que je vous mentionnais sur le milieu rural, c'est un projet que nous avons cofondé avec des collectivités territoriales, avec des associations qui étaient sur le territoire. Et ça, c'est une vraie façon, effectivement, de pouvoir avoir un impact et que nos réflexions arrivent à innerver la réflexion politique. Après, si un jour je deviens un très grand ponte, peut-être m'écoutera-t-on. Mais en attendant, non.
Malgré la situation aujourd'hui, malgré la situation mondiale, malgré les enjeux aujourd'hui, il n'y a pas une attention un peu plus aiguë
à
votre
recherche ?
D'accord.
J'aimerais bien vous dire, mais oui, bien sûr. Mais il y a une attention. Alors, ministériellement, non. En revanche, dans les collectivités, oui. Les collectivités, il y a une vraie demande des collectivités. Ça, je trouve que... Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai vieilli et que, du coup, on m'écoute un peu plus ou si parce qu'il y a eu un vrai changement. Mais je pense qu'il y a un vrai changement dans l'attitude des collectivités qui se trouvent démunies face à l'ensemble des enjeux de la transition. Elles sont porteuses de transition, mais en même temps, elles se rendent bien compte qu'il y a, notamment, par exemple, des enjeux sociaux qu'elles ne sont pas en mesure d'appréhender. D'où le besoin d'interroger les choses différemment de façon à pouvoir les aider à appréhender l'ensemble de ces enjeux. Oui. Il y a une prise de conscience que les enjeux ne sont pas uniquement des enjeux techniques. Et ça, c'est une vraie différence. Que la technique, on y a beaucoup cru. Mon conjoint est d'une famille qui de scientifiques ou de scientifiques purs, hein, des physiciens, des trucs bien durs. On sent qu'il y a toujours eu, enfin voilà, il y a une croyance en la technique. Cette croyance est en train de s'émousser. Elle ne disparaît pas, mais elle s'émousse et il y a en tout cas la réalisation qu'il y a besoin aussi de comprendre ce qui se passe et que on a beau proposer des solutions techniques, si les gens ne s'en emparent pas, de toute façon, ça ne servira à rien.
Ça la question de l'acceptabilité, comme pas mal de domaines. Vous me disiez, lorsqu'on s'est rencontrés par visio, que la question qu'il faudrait se poser, ce serait comment faire en sorte qu'on ait envie de ce futur. Se poser la question, échanger à ce propos, c'est déjà se mettre en mesure d'accepter une sorte de révolution, parce qu'effectivement, c'est vers ça que l'on va, individuellement et collectivement.
Effectivement, la question des futurs est une question qui a été une grande oubliée, ou plutôt qui s'est traduite en no future. Et du coup, quel est le besoin de se poser la question des futurs puisqu'il n'y en aura pas ? Donc, il y a besoin de réouvrir, de réouvrir les futurs. Je sais que l'école de mine travaille avec la fresque du climat, ce qui est une façon de commencer à questionner. La fresque du climat, on l'a fait aussi à l'ENTPE. Ce que j'ai remarqué, c'est que très souvent, ça laisse en fait les étudiants désemparés. D'où le besoin de passer derrière et de leur dire, bon ben voilà, vous savez quelles sont les solutions techniques, vous avez des envies, des vraies envies de vie. Ben, réfléchissez maintenant, comment est-ce que vous pourriez trouver des futurs et vers quel futur vous avez envie d'aller à partir de tout ça, en connaissant ben, les contraintes. Oui, effectivement, à Lyon, on va voir le climat d'Alger, oui, etc. Et à partir de ça, réfléchir à l'ensemble, en fait, de la société. Et c'est non seulement un exercice nécessaire, mais un exercice salutaire qui permet de redonner espoir aussi.
Voilà, ce que vous me disiez, c'est qu'en fait, vous les faisiez se propulser à l'âge de 50 ans à peu près.
Oui.
Qu'est-ce que ça provoque chez eux comme envie, comme idée, comme mouvement déjà ?
Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça provoque un mouvement. C'est-à-dire que ça leur redonne envie de s'intéresser au futur et de se dire qu'il y a des choses à faire et que ces choses sont en leur pouvoir et qu'ils sont en mesure de pouvoir se rendre vers quelque chose. Très modestement, c'est des petits projets. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait cet élan de nouveau vers l'avenir et de se dire qu'on va pouvoir faire des choses intéressantes, on va pouvoir faire des choses chouettes et que ça demande juste quand même de se poser un certain nombre de questions et qu'il est important de se les poser maintenant, mais de bien se les poser, pas en se disant ça va servir à rien.
Voilà, il y a beaucoup de pistes qui ont été lancées. Si vous avez des questions, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires, si vous avez envie de revenir sur certains sujets ou d'évoquer des choses qui n'ont pas été discutées, le micro est à vous.
Je voulais savoir si vous avez réfléchi à l'impact qu'a la livraison du e-commerce. Pour faire du vélo en campagne, je me suis vraiment senti de plus en plus en danger par des gens que l'on contraint à tenir des horaires impossibles, et ils prennent des risques, ils en font prendre, et ça devient terrible de rouler seul. Maintenant, je roule en groupe, et j'essaye de rouler même en VTT sur des sentiers pour éviter ces camionnettes, je dirais presque folles, quoi, qui coupent les virages, qui roulent à toute allure. Et c'est global aussi en ville, hein, parce qu'il y a toutes les camionnettes qui s'arrêtent, qui empiètent sur les voies, enfin voilà, vous avez compris.
J'ai pas travaillé personnellement sur le e-commerce, mais effectivement, ça pose des enjeux. Ça pose des enjeux sur la logistique, ça pose des enjeux aussi, toujours pareil, sur où est-ce que sont nos besoins derrière. La réflexion, elle est quand même là. Et notamment nos envies de matérialité, c'est souvent à ça que ça répond. Mais de façon plus pragmatique par rapport à votre question, c'est une vraie réflexion qui est en train de monter, effectivement, qui est regardée par les logisticiens, mais ce n'est pas quelque chose que j'ai regardé.
Une autre question.
Merci pour votre intervention. Je voudrais juste situer d'où je parle, comme on dit. Je suis militant dans une association qui, à Saint-Étienne, s'appelle Aussi Vélo, organisons la cité en vélo depuis quelques années. Et cette association a pignon sur rue, je crois maintenant un peu, depuis 1997. Donc je suis un militant cycliste et je vous remercie du tableau que vous avez brossé de l'ensemble des problématiques, effectivement, que l'apparition, non pas massive, mais certaine, du vélo, et qui peut et deviendra probablement massive dans les années à venir, a fait émerger comme situation politique, économique et d'autres choses. Je me posais la question en vous écoutant, et à travers les questions qui vous ont été posées, sur le fait que le vélo a été abordé sur la question de résoudre les problèmes qu'il pose. Et je me disais, mais est-ce qu'on ne pourrait pas la poser à l'envers, la question, et dire, on pourrait regarder ce que le vélo soigne. On pourrait regarder ce que le vélo sécurise. Donc, un renversement de l'approche du vélo, peut-être faire aussi bien que les communicants quand ils veulent vendre leur nouveau projet immobilier ou leur ville et qu'ils nous mettent systématiquement des petits vélos qui se promènent sur des endroits où on va construire quelque chose où il n'y aura pas de vélo. On le voit après, il n'y en a pas. Et puis j'aimerais, si vous me le permettez, pour finir sur un autre versant, que vous nous explicitiez plutôt, si c'est possible, comment une association peut arriver à être entendue de la part des opérateurs. Qu'il soit public, je vous en prends un par exemple, hein, la SNCF, qui est connue pour sa grande ouverture sur le cyclisme, ou d'autres qui sont des agences de l'État. Je pense par exemple à Saint-Étienne, à l'EPAS, ces établissements publics d'aménagement qui ne nous sollicitent pas beaucoup, un peu maintenant, mais très peu, et avec lesquels il est très difficile de leur faire entendre qu'on est peut-être des experts d'usage, mais que ça vaudrait le coup de nous écouter. Est-ce que là-dessus, de la position que vous occupez et de votre statut de chercheuse, vous pourriez nous en dire un peu plus ?
Alors, sur votre première remarque, effectivement, le vélo est toujours présenté comme la contrainte et non pas comme ce que ça améliore. Souvent dans les médias, c'est assez caricatural, mais on commence toujours par dire que c'est la faute du cycliste avant de s'interroger sur qui était réellement en faute et si ce n'était pas l'automobiliste qui était lui-même en faute. Donc, il y a ce besoin de changer les perceptions qui est importante et qui est sémantique, mais qui effectivement est complètement essentielle parce que ça se passe aussi sur la sémantique de changer les perceptions. Et on montre effectivement pas ce que ça solutionne, que ça évite en émissions, en dépenses de santé. Donc tous les effets bénéfiques et ce que ça procure aussi à l'économie. Le vélo ayant aussi un effet bénéfique sur l'économie et développant lui-même sa propre économie. Donc effectivement, c'est tout à fait important de mettre ces aspects de plus en plus en valeur. Frédéric Lérand parle du système vélo et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut pointer et ne pas opposer au système voiture. C'est un des points que j'ai pas développé, mais on a trop souvent tendance, vous parliez des pistes cyclables, on a trop souvent tendance à penser le vélo comme on a pensé la voiture, en tout cas dans les services techniques. C'est-à-dire qu'il faut que le vélo aille vite, il faut que ça rende à peu près les mêmes services que la voiture, sans penser le fait que le vélo, ce sont justement tous ces aspects sensoriels que je mentionnais. Donc c'est aussi du plaisir, et que ce plaisir, ça passe aussi par le type d'infrastructure qu'on va offrir. Et c'est aussi un espace qui doit être partagé par un ensemble de pratiquants si on veut qu'il se développe, c'est-à-dire qu'il faut qu'un enfant y ait autant de plaisir que quelqu'un qui souhaite aller vite et que finalement la personne qui souhaite aller vite, à la limite, ça serait aussi bien qu'elle soit plus sur des pistes qui sont dédiées peut-être à des personnes plus lentes et qu'elle puisse avoir un espace par exemple sur les voies de bus pour pouvoir aller à la vitesse qu'elle souhaite. Donc il y a une hiérarchie finalement des usages qui est complètement à penser et qui commence à émerger mais qui n'est pas réellement pensée de façon complètement aboutie parce que aussi ça passe par un besoin d'acculturation des services techniques qui ont aussi besoin de changer de logiciel. Pour avoir suivi des étudiants en stage dans les services techniques de la voirie à Lyon la voirie et autres services depuis maintenant un peu plus de 10 ans, on a vu une vraie évolution là-dessus, mais qui a pris son temps. Au départ, il y avait des vraies guerres entre les tout automobilistes et ceux qui essayaient de développer d'autres choses pour que progressivement les choses s'apaisent et que chacun comprenne en fait l'intérêt de l'autre. Donc il y a ces besoins d'acculturation. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire en tant qu'association? Ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y a eu, avec le Covid, une montée en compétences des associations. Une montée en compétences, alors essentiellement des grosses associations, mais je pense que à l'échelle quand même de Stéphanoise, vous pouvez avoir ce statut, et qui ont permis du coup de devenir des interlocuteurs. Alors, les associations trouvent qu'elles ne sont jamais assez écoutées, mais qui sont quand même de plus en plus écoutées par les politiques et en tout cas dont les réflexions sur les types d'aménagement demandés sont de plus en plus entendues à partir du moment où vous avez un personnel de politique qui n'est pas sourd. Mais ça, la surdité politique, c'est difficile de faire effectivement quand on est dans la situation où vous avez une non-volonté politique. Je vis moi-même dans une ville pourtant du Grand Lyon, mais où le maire est contre le vélo, par position de principe. Hein, c'est pas... Et on assiste à des choses hallucinantes. C'est-à-dire qu'il y a des pistes qui avaient été prévues, les études avaient été faites, les équipes arrivent et le maire interdit, parce qu'il a encore cette compétence-là, la création de la piste. Donc, c'est compliqué. Voilà. Le combat n'est pas fini. Et effectivement, tant qu'on n'a pas un espace suffisamment propice à ça, j'entends que ce soit extrêmement frustrant. Mais les choses avancent, et surtout les cyclistes sont de plus en plus nombreux et nombreuses. Donc du coup, il y a un moment donné où la question ne peut plus être ignorée malgré tout.
Je suis étudiant en design, je fais un mémoire sur comment rendre évident l'utilisation du cycle en milieu rural. Je me suis posé la question au fur et à mesure des recherches, si on devait remplacer la voiture, c'est-à-dire que dans ces milieux ruraux, est-ce qu'on doit prendre nos vélos sur les routes et du coup aller enfin, en tout cas, créer peut-être de nouvelles mobilités qui vont aller aussi à 50 km/h. Ou est-ce qu'on doit accepter, en fait, tout simplement, la lenteur, les limites du vélo? Et ça, c'est une question qui peut être à la fois philosophique, mais aussi législative, parce que je me suis intéressé, du coup, à une époque, bah, du coup, est-ce que, enfin, si je voulais acquérir un vélo électrique, en fait, 25 km/h, c'est très, très limité en milieu rural. Et du coup, après, si on veut aller plus loin, ça va être un vélo qui peut aller jusqu'à 50 km/h, donc avoir des assurances, etc. Tout le coût que ça implique. Donc, est-ce que les VAE doivent être... on doit augmenter la limitation à 30 ou 35 km/h pour pouvoir que les usagers en milieu rural puissent ne plus être limités par ce problème-là? Ou est-ce que, tout simplement, comme j'ai dit, il faut accepter la lenteur du vélo et ses limites? Merci.
La vitesse est un enjeu compliqué. C'est un enjeu compliqué parce que c'est aussi un enjeu de sécurité. C'est pour ça que pour l'instant, les VAE en France sont bridés à 25. Et autrement, vous êtes considéré comme une mobylette, donc vous êtes sur la chaussée et pas sur les pistes cyclables. Il y a tout cet enjeu, effectivement, la question de la vitesse est un enjeu, je dirais, à la fois, comme vous le dites, à la fois politique et philosophique. Néanmoins, on a beaucoup parlé à chaque fois de façon monomodale, finalement. On a pensé le déplacement uniquement en vélo ou uniquement en voiture, et là, on est vraiment dans une transposition directe de la voiture. Je pense que les déplacements, il faut aussi les penser maintenant de façon plurimodale. Et la réflexion, en particulier en milieu rural, c'est vraiment l'enjeu, c'est vraiment d'arriver à avoir une intermodalité efficiente. C'est-à-dire que bah, je vais partir de chez moi sans doute à vélo, mais je vais rejoindre un arrêt de bus, où j'aurai des bus, à des heures intéressantes, et qui va pouvoir m'amener là où j'ai besoin de m'amener, éventuellement avec un autre bus au bout, et vice-versa quand je reviens, ou un train. Voilà. Mais il y a un vrai besoin de penser l'intermodalité, de la même façon que vous mentionniez la SNCF. Et sa peu de réceptivité au vélo embarqué. La question pour la SNCF actuellement, et c'est une vraie question, c'est comment faire alors qu'on a une population qui a de plus en plus de vélos. Est-ce qu'on doit continuer à les embarquer ou est-ce qu'on doit faire comme par exemple aux Pays-Bas où en fait les gens n'embarquent pas leur vélo ou alors avec un surcoût? Et donc, du coup, très peu embarquent leur vélo. Et on est vraiment sur des systèmes où l'intermodalité est pensée. Donc, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus, autour de proposer des services qui soient efficaces, effectivement, avec des vrais rabattages, avec, du coup, à chaque arrêt, comme on le voit dans de nombreux pays, des possibilités de garer son vélo de façon sécurisée. Et du coup, de pouvoir effectivement passer d'un mode à un autre sans stress.
On va prendre peut-être une dernière question, madame.
Bonjour, je voulais savoir si dans vos travaux de recherche ou dans des publications, on pouvait identifier un autre rapport moins personnel à la voiture dans l'avenir. Et je pense à deux catégories. D'une part, des jeunes qui aujourd'hui finissent leurs études supérieures sans avoir passé le permis, et qui n'ont pas forcément l'intention de le passer parce qu'ils vont vivre dans des villes, il y a des transports collectifs, ils ont pris des habitudes, ils font du vélo, etc. Et aussi les personnes âgées. Alors, pour moi, je pense notamment, j'allais dire, aux jeunes retraités, des gens qui ont 65 ans, qui comprennent que leur niveau de vie va baisser de façon très sérieuse, qui n'ont plus la contrainte d'aller au boulot tous les jours, et qui se disent, je vais laisser tomber la voiture, je vais prendre les transports, j'ai plus de temps. Donc je prends les transports collectifs, je marche, et quand j'ai besoin, je loue un véhicule, je fais de l'autopartage, etc. Et quand on voit l'évolution de la population française, ça va devenir dominant. Donc est-ce qu'en fait, la voiture particulière, il y a des travaux qui montrent que la relation à la voiture particulière, cette relation hyper personnalisée pour beaucoup d'entre nous, est-ce que ça va évoluer, ne serait-ce que par la sociologie, par des mouvements qu'on pourrait pressentir dans la société?
Alors effectivement, la voiture comme étant un objet désirable et un objet renvoyant à un statut social, parce que la voiture c'est ça aussi, évolue. Sur les personnes âgées, je n'ai pas du tout observé ces populations-là, donc je ne pourrais pas vous dire Ça évolue. Ben là, on est toujours un petit peu sur les mêmes catégories socioprofessionnelles. Ça évolue effectivement sur des jeunes plutôt urbains qui n'ont pas été élevés avec ce besoin, en tout cas le réel ou pressenti de la voiture. Et je me suis amusée depuis plusieurs années, à chaque année, à demander à mes étudiants et étudiantes qui avait son permis de conduire et où est-ce qu'il habitait, où elle habitait. Et en fait, il y a une vraie fracture, pour le coup, entre les jeunes du milieu rural qui, en général, arrivent d'ailleurs à l'école avec leur voiture, et puis les autres, et qui, progressivement, commencent à moins l'utiliser. Le point que je vois quand même qui me donne espoir, c'est qu'effectivement, le parking de l'ENTPE est de moins en moins plein, alors que quand j'ai commencé à travailler à l'ENTPE, il était très plein. Donc on voit qu'il y a une évolution dans ce sens. Et par contre, quand on a réalisé des enquêtes, oui, ce sont des jeunes qui considèrent que la voiture, c'est avant tout des coûts. Et ça, c'est quelque chose qu'on a très peu dans les autres types d'enquêtes. Et que ces coûts, ben, ils n'ont pas envie de les supporter. C'est une contrainte, il faut la garer, il faut l'entretenir. Donc ce sont des aspects, effectivement, dont ils n'ont pas envie de s'encombrer. On avait essayé du coup de regarder ce qui se passait au moment de l'arrivée du premier enfant, parce que c'est en général le moment où les choses basculent. Alors, c'est une enquête qu'on avait faite en 2018, qui cherchait à rester aussi dans les centres. Donc, il faudrait voir ce qui s'est passé récemment. Donc, la volonté, c'était vraiment, si on avait une voiture, d'en avoir qu'une, et dans la mesure du possible, de pouvoir s'en passer pour passer à d'autres types de services, effectivement, de l'autopartage qui se développe.
Lors de l'échange que nous avons eu en juin dernier, vous m'aviez dit « on peut peut-être trouver des bonnes vies différentes ». Alors pour cela, il faut inévitablement que nous changions collectivement, donc aussi individuellement. À titre personnel, qu'est-ce qui vous donne envie de ce futur ?
Qu'est-ce qui me donne envie de ce futur ? Je suis quelqu'un de profondément curieux et j'ai une grande foi en l'humanité, ce qui est assez paradoxal parce que bon, on ne peut pas toujours dire que ce soit une grande réussite, mais j'ai foi en l'humanité et j'ai foi en la vie. Donc voilà, moi c'est ça qui me meut, c'est ça qui me donne envie et c'est pour ça que j'ai envie de me battre.
Merci tous d'être restés pour cette rencontre et puis un grand merci à Nathalie Hurtard d'être venue nous rejoindre et partager ses connaissances. C'est précieux. Merci à vous.
Merci à vous.